Salut les amis, c'est Alex Cordo et aujourd'hui on va parler de Jean-Sébastien Barr dans la rubrique Néoclassique, c'est parti tout de suite. Et c'est des inventions pour clavecin de Bach que nous allons parler. Et ces inventions, en fait, elles ont été écrites vers 1720. Bach les destine à son fils, ce sont des pièces pédagogiques, il y en a 15 en tout, elles sont écrites à deux voix, c'est ça qui nous intéresse nous, parce que du coup on va pouvoir les jouer à deux guitares, et Bach dira, je vous cite, « C'est 15 pièces à deux voix pour faire l'apprentissage de l'art de jouer à deux parties, d'obtenir un jeu cantabile et de contracter un avant-goût sûr de la composition. » Rien que ça, les amis. Et bien, si avec ça, on n'est pas au top. Donc nous, on va se délier un petit peu les doigts et les oreilles sur cette première invention en do majeur. C'est parti. Cette invention, elle est écrite sous la forme d'un canon renversable à l'octave. Ça veut dire quoi ? Bah en fait, nos deux voix sont en imitation, elles vont sensiblement se courir après, s'imiter. Et en plus de ça, on va pouvoir les jouer l'une sur l'autre et vice-versa. C'est-à-dire qu'on va commencer, ici dans notre cas, avec une partie plutôt dans le milieu du manche, ici, vers le milieu du manche. Et puis une seconde partie, qu'on pourrait appeler B, ici, dans le bas du manche. Et donc, en fait, donc une partie plutôt solo, une partie plutôt accompagnement. Et la guitare 2, en fait, elle fait exactement l'inverse. Quand la guitare 1 joue la partie A, la guitare 2 joue la partie B. Et quand la guitare 1 joue la partie B, la guitare 2 joue la partie A. Donc ça, c'est une petite prouesse de composition qui est assez habituelle, d'ailleurs, chez Bach. C'est un peu de la virtuosité de compositeur, parce que c'est pas évident de faire matcher. C'est un véritable exercice, quoi, hein, quand même. Donc voilà. Allez, on y va doucement. On décortique. Donc ça commence tranquille ici. Donc le premier truc qu'on peut remarquer ici, c'est cette petite broderie sur la partition qui est notée avec un petit signe un petit peu bizarre là, qui fait des vagues. Et ça s'appelle un mordant, c'est simplement une brève succession de hammer et pull-off en fait, tout simplement. Voilà, et ça on va le retrouver un petit peu partout, c'est assez typique de la musique baroque. Hein. Ici encore. Là, on part vers autre chose. Donc ici, on a une petite extension là dans le doigté. On pourrait le prendre semi ici, on pourrait le prendre en 17e case aussi. Hein. À vous de voir quoi. Moi je trouve que ça marche bien sur une seule corde. Donc là ici on a en fait une gamme qui est brisée en tierces par palier quoi. Ce genre de truc brisé en tierces en fait. Et moi en termes d'interprétation ici je m'amuse à donner un petit peu de relief, je m'amuse avec la dynamique, c'est-à-dire que j'essaie de faire partir ces petites montées de gamme brisée en tierces d'assez bas sur le plan de la nuance pour pouvoir faire un petit soufflet en fait, un petit crescendo léger. Hein. Donc voilà, ça donne un petit peu de relief, c'est intéressant. Donc vous avez vu, on retrouve notre mordant ici. Donc ici, on a toute une montée en tierce. Alors évidemment, là, je suis crescendo tout long. J'attaque de plus en plus fort. Et ici, attention, là, avec ce petit motif en triple croche, là. Il faut reprendre le médiator pour être dans le bon sens de la marche. Là, je suis vers le bas. Et je rattaque vers le bas pour éviter de me retrouver avec les mauvais appuis, quoi. « si c'est trop galère à jouer tout attaqué en alternate picking, vous pouvez très bien faire une petite liaison ici avec, avec des hammers. Hein. Et le mordant ici, là, je le fais presque comme un tri. Le tri, en fait, c'est un mordant qui se répète à l'infini. Hein. C'est ça, quoi. Donc là, ça dure pas très longtemps, donc on est un petit peu entre les deux, entre le tri et le mordant. Bah, moi, j'aime bien le faire comme ça. Rien n'est obligé ici, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à faire comme vous le sentez. Et donc là, on enchaîne sur la partie B. Donc en fait, là, ce qui est un petit peu compliqué, c'est de trouver la bonne durée des notes. En fait, le phrasé, il se fait, j'allais dire essentiellement à la main droite, c'est pas vrai, la main gauche, elle participe aussi. Il se fait, en fait, dans le choix, le dosage de la bonne durée des notes. Si je jouais, par exemple... où là, je coupe pas du tout les notes, c'est pas très intéressant. À l'inverse, si je le fais trop piquer... c'est pas terrible non plus, quoi. Faut trouver le bon dosage. Voilà, ça c'est peut-être la plus grosse difficulté, à mon sens, de cette invention. Les violonistes font ça très bien dans l'archet, et il y a un truc aussi qu'ils font très bien, et que j'essaie de reproduire, c'est quand il y a une phrase qui a une direction, par exemple une direction ascendante ici... En fait, naturellement, on a un petit crescendo, et moi j'essaie de le souligner un petit peu. Donc en attaquant un petit peu plus fort, donc ça veut dire que je peux partir d'un petit peu plus bas, hein, en fait. Hein. C'est plutôt ça le secret, parce que sinon on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc je fais ce petit crescendo d'un point de vue dynamique, mais peut-être aussi en allongeant un petit peu les notes. Donc quand elles sont un petit peu plus longues, elles prennent un petit peu plus d'importance, et du coup je donne un relief à ma phrase, encore une fois, du caractère, quoi. Donc je reprends ici... Voilà, et après ça trace tout droit jusqu'à la fin. Donc j'espère que vous allez vous amuser avec le backing track, et ou voir avec des potes, parce que vous pouvez la jouer évidemment à deux, ça c'est le top du top. Et moi je vous dis à très bientôt les amis.